Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
He's a liar.
We never should have gone over there together.
Manipulator. Perverse, dangerous.
I love you, Mom.
They want to believe he's their brother, their son, so they believe it.
I was never a very good mother.
Bonjour, retour aujourd'hui au Festival du film français qui s'est tenu fin novembre à Prague et dans sept autres villes tchèques. Il a présenté dans la section Choix de la critique Le Caméléon, le dernier film de Jean-Paul Salomé avec le Canadien Marc-André Grandin dans le rôle principal. Le réalisateur de Belphégor, d'Arsène Lupin ou des Femmes de l'ombre a tourné cette fois-ci un film à petit budget, un drame psychologique dont l'action se passe en Louisiane aux États-Unis. Un jeune homme qui dit s'appeler Nick Randall est découvert par la police espagnole. Il dit avoir été enlevé 4 ans plus tôt par les membres d'une secte. Une jeune américaine vient le chercher, le reconnaît comme étant son frère et le ramène aux États-Unis. Le film est basé sur l'histoire vraie du français Frédéric Bourdin, condamné à plusieurs reprises pour usurpation d'identité. Jean-Paul Salomé s'en est inspiré à la suite de la lecture d'un article de journal.
J'ai lu un article, il y avait un article dans le journal français Libération il y a quelques années sur ce jeune homme, et cet article parlait aussi d'un livre qu'avait écrit le journaliste Christophe D'Antonio. Et donc j'ai lu ce livre, qui est un récit journalistique, qui n'est pas un roman, qui est un, comme disent les Américains, un non-fictional book. Et à partir de là, j'ai découvert le cas de ce garçon, Frédéric Bourdin, qui il y a une dizaine d'années, donc, s'était fait une spécialité de prendre l'identité d'enfants disparus. Il l'a fait à travers la France et l'Europe, et à un moment donné, il a failli se faire coincé par Interpol, et du coup, il a décidé d'essayer de faire ça et de partir, de fuir aux États-Unis. Voilà, il est allé sur un site d'enfants disparus. Il a trouvé un gamin qui lui ressemblait un peu et il a tenté le coup. Et voilà, là commence le film et c'est l'histoire de ce voyage aux États-Unis. Et contrairement aux autres expériences, ce coup-ci, il va être accepté par la famille et la famille va le reconnaître comme étant son fils.
Ce qui n'était pas le cas dans les autres familles.
Non, c'est-à-dire que dans les autres familles, ça durait très peu de temps ou le processus ne marchait pas totalement. Là, curieusement, il a tenté le tout pour le tout et curieusement, la famille l'a accepté, l'a reconnu comme étant son propre enfant. En gros, il avait disparu à l'âge de 12, il revenait à 16, il avait changé physiquement, évidemment, et on se disait, oui, c'est lui, ça doit être lui, quoi. Et lui, à l'époque, avait déjà plus de 20 ans, c'est-à-dire que il avait 22, 23 ans et il jouait le gamin de 16 ans. Voilà. Donc c'est un personnage extrêmement trouble. D'ailleurs, de vivre comme ça pendant 4 mois, il a vécu 4 mois dans cette famille américaine. En fait, c'est un acteur, quoi. C'est un acteur né dans le rôle de composition. Et il a vécu au milieu de cette famille en Amérique pendant 4 mois. Ce que raconte le film, après, je vous raconte pas tout parce que il y a pas mal de surprises. Et pourquoi cette famille l'accepte, etc. Mais voilà. Donc j'ai trouvé cette histoire très, très émouvante, fascinante, intrigante. Et ce personnage assez noir m'a inspiré, ouais.
Et psychologiquement, peut-on dire quand même pourquoi cette famille l'a accepté ? C'est une famille assez particulière.
Oui, c'est de toute façon, c'est tous les personnages de ce film sont assez particuliers. ça se passe dans une frange de la société de laisser pour compte aux États-Unis, ce qu'on appelle les white trash. C'est le quart monde blanc. C'est pas ni les blacks, ni les portoricains, ni justement les minorités qu'on a l'habitude de voir au cinéma américain. C'est vraiment des blancs, des comme ils disent là-bas, des type caucasien, qui vivent dans des trailers, donc des espèces de mobilhomes, dans les périphéries, enfin ça veut rien dire là-bas, mais enfin en tout cas dans des zones urbaines. Le film a été tourné à Baton Rouge, en Louisiane, où il y a justement dans tout autour de Baton Rouge énormément de trailer parks. Et c'est vrai que je pense que cette misère humaine déteint sur les rapports sociaux entre les gens, sur les rapports affectifs, et qu'il est tombé dans ce panier de crabes. Il est tombé dans cette famille disloquée, cette espèce de horde sauvage. Voilà, je peux pas en dire trop, parce qu'après, il y a des tas de révélations et de choses, et on comprend pourquoi, mais c'est un peu le bal des paumés, quand même. Voilà, c'est des gens qui sont perdus, qui n'ont plus aucune notion familiale, la cellule familiale a éclaté. Et avec l'arrivée de ce jeune homme qui se prétend être leur fils, voilà, c'est peut-être une seconde chance pour la mère, pour la sœur, pour tout ça et pour tous ces personnages. Et il décide de prendre cette chance et d'essayer grâce à lui de reconstruire quelque chose.
Et Frédéric Bourdin, vous l'avez connu personnellement?
Alors,
vous avez cherché à comprendre ses motifs, pourquoi il l'a fait en fait.
On a écrit le scénario avec Nathalie Carter, donc la scénariste, et c'est vrai que on n'a pas voulu le rencontrer tout de suite parce que c'est un personnage assez complexe, qui n'est pas facile d'accès, qui est assez imprévisible, et ce personnage est assez dérangeant. Il était assez dérangeant. Maintenant, je pense que Frédéric Bourdin a évolué. Cette histoire il y a 10 ans et sa vie aujourd'hui est différente. Mais en tout cas, à l'époque et même au moment où on écrivait, je pense qu'il était encore en train de cette métamorphose ou en tout cas d'abandonner cet ancien personnage qu'il a joué pendant des années ou qu'il a été pendant des années. Et donc on ne voulait pas le rencontrer au moment d'écrire le script pour ne pas être influencé. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire ou être fasciné ou être révulsé et se dire ce personnage est abominable, je ne vais pas pouvoir faire un film comme ça, très bon. Mais néanmoins, une fois le scénario écrit, moi ça me paraissait difficile de faire. J'avais jamais tourné un film sur un personnage existant comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de le rencontrer, on s'est rencontrés, ça n'a pas été facile. Le premier rendez-vous même a été très très particulier et très déstabilisant parce que je lui ai expliqué un peu ce que j'avais envie de faire sur le fait que c'était certes inspiré de son histoire mais que c'était aussi ma vision de son histoire et que c'était pas une biographie officielle de Frédéric Bourdin. Bon, en tout cas, il a été sur la réserve pendant 1 heure, il n'a rien dit. C'était très très impressionnant et très dérangeant.
Un peu comme dans le film.
Un peu comme dans le film, tout à fait. Ensuite, il a lu le script et là, ça, il a changé de position. C'est-à-dire qu'il a lu, on s'est revu et il a trouvé, d'après ce qu'il m'a dit à l'époque, le scénario très juste dans ce qu'il avait vécu, dans les sentiments, même si pour le besoin du cinéma et de l'histoire, il y a des choses que j'ai dû faire évoluer et modifier dans la narration. Mais en tout cas, lui s'y retrouvait. Après, il s'est braqué. Le film a été très, très compliqué à faire. C'était un film où on a eu du mal à trouver l'argent, parce que le film se tourne aux États-Unis, enfin bon, donc le film a failli plusieurs fois ne pas se faire, on a eu des espèces de relations distendues. Ce qui m'a fait plaisir au final, j'en arrive là, c'est qu'à la fin il a vu le film et qu'il a été agréablement surpris, qu'il a trouvé que c'était juste, qu'on ne l'avait pas trahi. Et pour moi c'était le plus beau cadeau, parce que c'est vrai que de faire un film sur un personnage vivant, c'est très angoissant. Et je pense que la chose principale c'était qu'il ne se sente pas trahi et qu'il ne se sente pas manipulé par le film et par mon travail.
Il a une famille ?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, il a une famille. Il avait rencontré une jeune femme. Ils ont 2 enfants, je crois. Et voilà, et je crois qu'il a tourné cette page-là. C'est un homme qui essaye de se construire une autre vie. Parce que, alors, pourquoi il a fait tout ça ? C'est le film n'a pas l'ambition, c'est pas une étude... c'est pas la psychanalyse de Frédéric Bourdin. Je trouve que je ne me sentais pas peut-être armé ou l'autorisation de donner les clés du personnage. Je crois que le personnage est trop complexe et que c'est à chacun des spectateurs de trouver les pistes. Bien sûr qu'il y a des explications, bien sûr qu'il a dû souffrir dans son enfance pour faire tout ce qu'il a fait sans... Toute cette course à d'autres identités, à des usurpations, à s'introduire dans des familles, c'était jamais pour aller voler de l'argent ou des choses comme ça, hein. Soit bien clair. Il l'a fait juste pour recréer une cellule familiale, retrouver une mère, une sœur. Donc c'est assez... Voilà, donc il y avait forcément un manque quelque part dans son enfance, qui venait de son enfance pour avoir envie de retrouver tout cet amour et courir après une adolescence qu'il n'avait pas eue.
Il a ses parents, lui-même ?
Son père l'a abandonné assez tôt avec sa mère, et puis il a été élevé par ses grands-parents, et sa mère aussi l'a laissé tomber assez vite. Mais visiblement, il y a quelque chose du rapport de haine ou d'amour et haine entre lui et sa mère qui est assez dur, et je pense que c'est une des clés du personnage.
Donc vous avez dit que le tournage était assez difficile. Le film, vous l'avez tourné en 28 jours. Et il paraît qu'il a été tourné comme un film indépendant américain. Alors, oui, comment on tourne les films indépendants américains?
Ben, on tourne vite, très vite. C'est vrai que moi, j'avais eu par le passé, j'ai fait des films, plutôt des grosses productions, et que c'était aussi une volonté de ma part, quand j'ai trouvé cette histoire, de me dire, tiens, ça va me donner deux opportunités très intéressantes. D'une part, c'est d'aller travailler à l'étranger, avec des comédiens étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis la comédie que j'avais faite, Restons groupés aux États-Unis, me trottait dans la tête, mais de retourner en Amérique, mais de faire un film américain, et sans aller faire un film d'action ou une commande, ou voilà. Donc ce sujet, j'y tenais, vu que je l'ai développé avec une scénariste, avec Nathalie Carter, et que ça m'offrait donc la possibilité de me confronter à des comédiens anglo-saxons. Donc ça, c'était déjà un challenge. Et puis, je savais que par la dureté du sujet, le film rentrait dans ce qu'on appelle la catégorie du cinéma indépendant américain, qui est un cinéma qui se fait avec des moyens réduits, une économie, et qui nécessite, du coup, de tourner vite. Mais tout ça est possible là-bas. Et c'est ça qui a été formidable dans cette aventure, c'est que le tournage a été dur, c'est la mise en route qui a été dure. Mais une fois qu'on a tourné, justement, je trouve que ça s'est passé extrêmement bien. C'était difficile, mais ça s'est passé dans une espèce d'énergie, de concentration très intéressante. Et le film a été tourné là-bas en 25 jours, en 5 semaines, ce qui est le lot du cinéma indépendant américain quand même. Mais quand on est de l'extérieur, on ne comprend pas trop comment ils peuvent faire. Et en fait, quand on est dedans, on comprend qu'il y a une efficacité, une organisation, une présence et une concentration des techniciens et des comédiens, un investissement des comédiens énorme, qui fait que ces gens ont travaillé avant, ont répété, ont réfléchi, et quand ils arrivent sur le plateau, ça permet au metteur en scène de faire de la vraie mise en scène cinématographique, c'est-à-dire que c'est pas juste réexpliquer des personnages ou des choses du scénario qu'ils n'ont pas comprises et sur lesquelles ils ne s'étaient pas posé de questions. Tout ça est déjà réglé. Tous ces problèmes sont réglés avant avec les Américains parce qu'ils ont fourni ce travail. Et c'est juste comment maintenant on fait du cinéma avec ça. Voilà. Comment on joue, comment on parle, comment on bouge, comment tu filmes, comment on met en scène. Et ça, c'est extrêmement agréable parce que du coup, on est dans un truc extrêmement pratique et la théorie est passée, quoi.
Et vous avez réussi à convaincre vite les deux actrices assez connues qui jouent dans votre film, à savoir Famke Janssen et Ellen Barkin.
C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une autre approche. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une curiosité et une facilité d'approche des comédiens américains qu'on n'a pas forcément chez nous en France. C'est-à-dire que j'ai pu joindre ces gens-là assez facilement, les rencontrer assez facilement. Ils ont demandé à voir mon travail, ils l'ont vu très vite. Il y a une espèce de réactivité qui, des fois, n'est pas aussi forte en France, j'ai l'impression.
Vous voyagez beaucoup avec ce film?
Non, pas énormément. Curieusement, vous savez, si on dit on fait des films en anglais qui peuvent être vus partout, etc., ben c'est pas si évident que ça. Finalement, des fois, de faire des films vraiment français, c'est plus simple, à tout point de vue.
Il a été bien accueilli aux États-Unis?
Il n'a pas été accueilli du tout. Il n'a pas été, il ne le sera pas. Je pense qu'il y a un rapport, finalement, au cinéma américain par les Européens qui est très dur. On est quand même peu d'Européens à essayer de tenter de faire des films là-bas. Voilà, il y a une perception des choses qui est différente ou alors l'industrie américaine n'a pas envie que des petits Français viennent faire des films là-bas et du coup on vous autorise à les faire, ce qui est déjà bien, mais après il y a pas de suite. Je suis pas le seul, vous savez, il y a un réalisateur français encore plus renommé que moi, hein, qui s'appelle Bertrand Tavernier, qui a vécu exactement la même chose. Il a fait un film avec une vedette là-bas, Tommy Lee Jones, le film n'est jamais sorti aux États-Unis. Voilà, alors que le film a été un succès en France, et passé à l'étranger. Aux États-Unis, le film est sorti en DVD, et puis c'est tout, quoi. Bon, bah, mon film connaît à peu près le même sort. Voilà. Donc, je ne fais pas une paranoïa délirante, mais il y a quand même un truc un peu bizarre, voilà. Il y a quelque chose que je m'explique mal.
Why would I trust other people?
24 hours a day in someone else's skin. It's gonna be unbearable.
Jeffrey, it's Nicholas. I have to talk to you.